journal Frédéric Mettezo, bonjour.
Bonjour à tous. Le printemps sera-t-il algérien? Nouveau vendredi de mobilisation sur l'autre rive de la Méditerranée. Les manifestants demandent un départ en douceur d'Abdelaziz Bouteflika, le président algérien, vers celui dans la théorie du complot étranger. L'Algérie, Nicolas, vous en parlez dans 20 minutes avec votre invité, un grand écrivain, un grand intellectuel algérien.
Et qui semble heureux en voyant le peuple algérien se réveiller. Kamel Daoud au micro d'Inter dans 20 minutes. Son dernier livre, Le peintre dévorant la femme, était publié chez Stock. Vous pouvez intervenir, évidemment, dialoguer avec lui au 01 45 24 7000. Les réseaux sociaux sont là, l'application mobile d'Inter également.
Et si le grand débat s'achevait par un référendum, c'est Emmanuel Macron qui en parle. Le président de la République en Haute-Provence hier soir, nous l'entendrons. Au sommaire ce matin, le pape va-t-il accepter la démission du cardinal Barbarin? 5 ans après, l'une des catastrophes aériennes les plus inexplicables, celle du vol MH370 entre l'Indonésie et la Chine. Les taux immobiliers au plus bas en France, la grande collecte nationale des restaurants du cœur et les restes d'un des plus grands sacrifices humains en pays Maya, il y a plus de 5 siècles, une découverte archéologique stupéfiante.
France Inter.
Ce sont des mots qu'il ne prononcera pas en public, mais par communiqué, Abdelaziz Bouteflika met la pression sur les Algériens qui devraient encore descendre en masse aujourd'hui, jour de repos là-bas. Comme en Égypte ou en Tunisie lors des printemps arabes, les vendredis sont les plus mobilisateurs en Algérie. Dans ce communiqué, donc, le potentat impotent évoque une éventuelle infiltration intérieure ou extérieure des manifestations qui pourrait provoquer le chaos. Il met en garde contre un retour à la guerre civile comme dans les années 80. Jusqu'ici, les manifestations et les mots d'ordre sont pacifiques en Algérie. Thibaut Cavaillès, les anti-Bouteflika sont persuadés que cela va continuer.
L'appel à des marches pacifiques n'émane pas d'une quelconque organisation, mais plutôt de l'inconscient collectif algérien marqué par la décennie noire et qui veut qu'aujourd'hui, tous tiennent à manifester avec le sourire. Même les plus défavorisés, aux revendications peut-être plus nombreuses. Militant associatif, Hakim Haddad, de passage à Paris, nous raconte ce qu'il a vu au cœur des manifestations algéroises.
J'ai vu des gens qui participent régulièrement dans les stades, etc., à des affrontements avec la police. Je pense qu'ils étaient colériques, mais ils n'exprimaient pas cette colère. Bien au contraire, c'était le sourire, c'était les chants, c'était la joie.
Mais si le régime, aujourd'hui de plus en plus isolé, demandait aux forces de l'ordre d'agir plus sévèrement, ce sera compliqué, assure depuis Alger Massen Sencherbi, doctorant à l'université Paris-Assas.
Le problème, c'est qu'elles interviendraient contre leurs enfants, leurs parents, leurs propres frères. On a eu des photos qui ont circulé un peu à gauche à droite. Tel policier embrassant son fils, qui était un manifestant, tel policier recevant des fleurs de manifestantes, etc. Si les policiers accepteraient d'appliquer ses ordres, saurais vous le dire. En tout cas, on sent bien un malaise chez les policiers.
Hier, un communiqué présidentiel appelait à la prudence contre une infiltration du mouvement, intérieur comme extérieur, et pouvant provoquer le chaos. Cette main de l'étranger tant brandie par le pouvoir pour inquiéter le peuple, qui désormais n'est plus dupe.
4 ans de prison pour Paul Manafort, l'ancien directeur de la campagne présidentielle de Donald Trump, est condamné pour des malversations financières. Il attend un autre jugement sur une éventuelle ingérence russe dans la campagne de 2016. Il a plaidé coupable.
Il est 8h04, Frédéric, et l'on reparle d'un référendum pour clore le grand débat.
C'est Emmanuel Macron lui-même qui en reparle. Le chef de l'État a Gréoux-les-Bains hier pour débattre devant 400 personnes, notamment des collégiens très attachés à l'écologie. Et donc, à l'issue de la rencontre, le chef de l'État a relancé l'idée d'un référendum si cela était nécessaire.
Tout ça va continuer. Et maintenant, les prochains jours comme les prochaines semaines ne doivent absolument pas donner lieu à des décisions hâtives. Il faut aller véritablement au bout de ce processus. Donc il y a des propositions qui doivent venir d'associations, de syndicats, d'associations d'élus qui sont très importantes. Nous aurons l'Assemblée et le Sénat qui auront à mener là aussi leur part du débat. Et ça n'est qu'à l'issue que nous apporterons des réponses. Et dans ce cadre-là, il faudra décider dans les prochaines semaines quels sont les types de réponses qu'on veut apporter. Il y a des choses qui peuvent être faites par le gouvernement lui-même. Il y a des textes de loi qui peuvent en découler. Il peut y avoir des décisions référendaires. Tout est sur la table parce que nous sommes dans le débat.
Des décisions référendaires. Emmanuel Macron hier soir à Gréoux-les-Bains, propos recueillis par Laurence Perron. Comme l'organisation d'un référendum, le calendrier de la loi bioéthique fait débat au sein de la majorité. Ce matin dans Le Parisien, la secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, Marlène Schiappa, redit que cette loi arrivera au Parlement avant l'été. Pourtant, en début de semaine, son collègue chargé des relations avec le Parlement avait semblé plus hésitant.
Marlène Schiappa qui s'exprime en cette journée internationale des droits des femmes.
C'est le 8 mars. Marlène Schiappa souhaite que les congés paternité soient rallongés. Elle annonce que depuis 5 mois, 332 contraventions ont été dressées pour outrage sexiste. C'est un nouveau délit. Les insultes, le harcèlement moral, les agressions physiques, même s'il augmente, le niveau de plainte reste très faible en France. Par exemple, 14% des victimes de violences conjugales déposent plainte. Elles sont souvent intimidées par la démarche. Voilà pourquoi une assistante sociale est présente au commissariat d'Amiens depuis une quinzaine d'années. Reportage sur place de François Sauvestre.
Christine Defonte n'est pas policière. Elle dépend du conseil départemental de la Somme. Mais depuis 2014, c'est bien dans les murs du commissariat d'Amiens qui situait son bureau, là où elle a reçu l'an dernier 250 femmes victimes de violences essentiellement conjugales.
On a une mission, bien sûr, de réassurance par rapport à la procédure qui va être engagée à l'égard de leur conjoint, pouvoir un peu démystifier ce côté judiciaire. Donc du coup, ça permet aussi un tremplin afin que l'enquête elle puisse se dérouler au mieux.
Une assistante sociale, mais aussi une psychologue qui travaille de pair avec la dizaine d'enquêteurs du groupe de protection des personnes vulnérables et celui des mœurs. Des policiers qui ont, ces dernières années, fait de gros efforts dans l'accueil des femmes victimes de violences, selon Fabrice Navarro, le directeur adjoint de la sécurité publique dans la Somme.
L'accueil des victimes, d'une manière générale, est prioritaire et particulièrement sur les femmes victimes de violences, notamment quand on sait la difficulté que représente ce premier pas qui est de franchir le seuil d'un commissariat. Donc la police s'est adaptée. On a aujourd'hui des policiers qui sont rompus à ce type d'enquête. Et donc il va à la fois falloir qu'ils soient dans l'empathie, mais également qu'ils n'aient pas de préjugés face à la victime.
Des consignes enseignées dès l'école de police et renforcées par des formations en interne pour encore améliorer cet accueil des victimes. Des victimes toujours plus nombreuses à porter plainte. Celles pour des viols ont augmenté de 17% en France entre 2017 et 2018.
Le reportage de François Sauvestre de France Bleu Picardie, cette journée internationale des droits des femmes. On en parle sur l'antenne de France Inter jusque ce soir et sur franceinter.fr. Ce n'était pas un nouvel acte de haine antisémite, mais un bête accident automobile à Strasbourg. La stèle commémorant l'ancienne synagogue de la ville avait été renversée le week-end dernier. C'est un automobiliste qui sortait de boîte de nuit qui a heurté le monument en marche arrière avec sa voiture. Il sera jugé pour défaut de maîtrise du véhicule et délit de fuite, car ses passagers avaient bien remarqué l'incident. Cette personne mise en examen, dont 4 incarcérés pour viol et attouchement sexuel sur 3 frères et sœurs. La mère, le beau-père, l'oncle et la grand-mère des enfants sont en prison. La justice des hommes l'a condamné à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation de crimes pédophiles d'un prêtre de son diocèse. Philippe Barbarin fait appel, mais il va remettre sa démission au pape. Le cardinal archevêque de Lyon veut se rendre au Vatican dans les prochains jours. La décision finale revient au pape François. Il a promis d'appliquer la tolérance zéro. À Rome, Mathilde Berti.
Aucune date n'est encore fixée à Rome pour une rencontre entre le pape François et l'archevêque de Lyon. Le Vatican ne laisse rien filtrer, pas un commentaire sur la décision du cardinal Barbarin de remettre sa démission. Les deux hommes se connaissent bien, faits cardinaux au début des années 2000, ils ont vécu ensemble 2 conclaves, dont celui qui a vu l'élection à la tête de l'Église du cardinal Bergoglio. Le chef de l'Église catholique peut théoriquement refuser la démission du cardinal Barbarin. Il l'avait fait en 2016 quand le prélat lyonnais avait envisagé déjà de renoncer. Ce serait un contresens et une imprudence, avait alors commenté le pape, mais l'affaire venait tout juste d'éclater. Maintenant que la justice pénale française a rendu un jugement, et un jugement sévère sur les manquements de Philippe Barbarin, le pape François n'a probablement pas d'autre choix que d'accepter son départ et de nommer un successeur à la tête du diocèse. Il y a 2 petites semaines, lors d'un sommet extraordinaire au Vatican, il promettait une lutte à tous les niveaux contre la pédophilie, soucieux d'appliquer la règle de la tolérance zéro envers les responsables d'abus sexuels et ceux qui les couvrent. À Rome, Mathilde Imberti, France Inter.
Le gouvernement italien va-t-il dérailler à propos de la voie ferrée Lyon-Turin? Hier soir, le chef du gouvernement, qui est 5 étoiles, a estimé que l'Italie n'avait pas besoin de cette ligne. Mais les ministres de la Ligue d'extrême droite soutiennent ce projet, tout comme la France. Il y a 5 ans, tout juste, le vol MH370 de la Malaysia Airlines disparaissait des écrans radars une heure après son décollage. Parti de Kuala Lumpur en direction de Pékin avec 239 personnes à bord, l'avion n'a jamais été retrouvé. 2/3 des victimes sont chinoises et aujourd'hui des familles chinoises se rendent au ministère des Affaires étrangères à Pékin. Elles demandent toujours la vérité, Dominique André.
D'accord, bonne nuit. Ce sont les derniers mots du copilote du MH370 avec le sol. Depuis 5 ans, M. Zhang Rui est hanté par cette question. Où est passé le Boeing 777 jamais retrouvé malgré des recherches maritimes les plus importantes jamais organisées? Les quelques débris découverts au large des côtes est de l'Afrique n'ont n'ont pas permis d'élucider le mystère. Sa mère, âgée de 71 ans, était l'un des 154 passagers chinois. Cet ingénieur nous reçoit dans son appartement cossu dans le nord de Pékin. Il continue de chercher la vérité en restant en contact avec les familles de l'avion disparu.
Je ne peux pas dire quels sont les gouvernements qui connaissent la vérité, mais je suis sûr d'une chose, toutes les informations ne sont pas données. Je suis persuadé que la vraie cause, c'est l'état dans lequel se trouvait l'avion. Mais il y a des gens qui veulent le cacher. Le rapport qui a été publié après les recherches n'est pas basé sur toute la vérité. Il a été élaboré de manière bien réfléchie pour protéger les intérêts de toutes les parties, mais la justice finira par triompher. Cette affaire ne restera pas un secret dans l'histoire.
Monsieur Zhang Rui montre un colis qu'il vient de recevoir de Malaisie. Ce sont des biscuits. Les familles des victimes du vol MH370 sont restées très proches. Pékin, Dominique André, France Inter.
Il est 8h11, on revient Frédéric à l'actualité française avec des taux immobiliers historiquement bas.
Les taux d'emprunt continuent à baisser selon le dernier baromètre du courtier meilleurtaux.com. On atteint les 1,35% sur 15 ans, 1,55% sur 20 ans. Pour autant, Fabien Cazot, pour autant, le marché du neuf ne s'emballe pas.
L'immobilier ne profite pas pleinement de la baisse des taux, en particulier dans le neuf. Première raison avancée par les constructeurs de maisons, la réduction des aides publiques, restriction des conditions d'obtention des prêts à taux zéro, suppression d'aides à l'accession à la propriété. Les ventes de maisons ont baissé de 11% depuis un an. L'équivalent d'une ville de 45 000 habitants n'a pas été construite, selon les professionnels du secteur. La baisse sur les maisons, particulièrement marquée en Bretagne et en Normandie, se ressent partout. Tout comme le fléchissement des constructions d'immeubles neufs. Seule bonne nouvelle, le marché de l'ancien reste lui en hausse, même si cette augmentation est moins marquée que les années précédentes. 970 000 transactions ont été enregistrées l'année dernière. La progression est limitée par l'impact des prix, toujours à la hausse, particulièrement en Île-de-France. Encore plus 4% l'année dernière en région parisienne, un peu moins de 3% au niveau national.
On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Une ancienne salariée de Pôle emploi à Brignoles dans le Var a été condamnée à 2 ans de prison avec sursis. Pendant 4 ans, elle s'était versé plus de 120 000 euros d'indemnité chômage. Elle a depuis été licenciée de Pôle emploi. En 2017, elle est aujourd'hui au chômage pour de vrai. La grande collecte annuelle pour les Restos du Cœur, elle se déroule aujourd'hui et demain dans les supérettes et les supermarchés. 77 000 bénévoles déployés dans 7 000 supermarchés partout en France. En fait, le coup d'envoi a été donné hier à Paris dans un magasin du 7e arrondissement. Delphine Evenou.
Gilet rose sur le dos, les bénévoles distribuent leur prospectus.
C'est une collecte, mais je ne vois pas pour qui.
Et en mettant les lunettes.
Ah d'accord, Restos du Cœur, donc c'est bon, je donnerai. On a la chance d'avoir le moyen de vivre, on va essayer de partager un peu.
Pour aiguiller les potentiels donateurs, Julie, étudiante.
Moi je me suis donc inscrite en tant que bénévole d'un jour sur le site internet pour faire la collecte nationale, c'est ponctuel. C'est un temps fort des restos et donc il y a besoin de plus de main d'œuvre, particulièrement sur ce week-end-là.
Certains clients connaissent leur dossier.
Je sais qu'il y a des gens qui ont tendance à acheter plus des produits, par exemple comme des conserves, du riz, des pâtes, des choses comme ça. Et parfois, les rasoirs, par exemple, ça peut manquer, ou les brosses à dents.
Odile, brushing impeccable, remplit son panier.
Bien sûr, madame.
Que du bon.
J'ai donné du lait de soja avec du calcium. Dans les biscuits, je sais qu'il y a du sucre, mais peu importe. C'est la dopamine du plaisir.
La tendance est à la qualité, confirme Emmanuel, bénévole habitué.
Les clients donnent un petit peu ce qu'ils mangeraient eux. On voit plus de produits bio, plus de produits aussi diététiques, dans un souci aussi de manger mieux et de manger pour sa santé.
Les cartons se remplissent.
Merci beaucoup.
Chaque collecte est essentielle, rappelle Patrice Blanc, le président des Restos du Cœur.
Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et surtout, à travers cette aide alimentaire qu'on apporte chaque semaine, un lien se crée. Et ça permet à des personnes de rebondir et de se réinsérer socialement. Donc, c'est vraiment utile.
Objectif de ces 2 jours, 8000 tonnes collectées, l'équivalent de 8 millions de repas.
8h14, pour finir, Frédéric, une découverte archéologique spectaculaire.
Au Pérou, près de Trujillo, où des fouilles ont mis au jour des centaines de corps d'enfants et d'animaux sacrifiés il y a plus de 500 ans. L'enquête est publiée, elle a été publiée hier dans une grande revue scientifique, Sophie Becherel.
Des mèches de cheveux, des touffes de poils affleurant sur le sable de la dune, ce fut le premier indice. Ensuite, les archéologues ont mis au jour, en surplomb d'une falaise au bord de l'océan Pacifique, les restes de 140 enfants. Ils avaient de 5 à 14 ans, des garçons, des filles, à leur côté 200 lamas et alpagas, tous offerts aux dieux il y a 550 ans, tous portant le même stigmate, explique l'un des co-auteurs de l'étude, Nicolas Gopfert, chercheur au CNRS.
Les études effectuées sur les squelettes montrent une volonté d'extraire le cœur des individus. Donc pour les enfants, ça se voit par des traces de découpes sur les sternums, sur l'ouverture des cages thoraciques.
Ces squelettes étaient prisonniers dans une couche sédimentaire différente. Elle atteste d'une anomalie climatique au XVe siècle et pourrait expliquer cette mise à mort collective par le peuple Chimú. Il fallait calmer les forces divines.
La côte désertique du Pérou est un endroit où il ne pleut quasiment jamais. Et le seul moment où on a des pluies torrentielles, c'est lors d'événements El Niño d'importance. Donc ça provoque des pluies torrentielles, donc glissements de terrain, inondations et autres destructions. Donc c'est ce qui nous incite à penser que l'événement climatique a dû avoir son importance dans les bouleversements idéologiques qui ont eu lieu à cette période-là et qui sont probablement une des raisons pour lesquelles les prêtres Chimú ont sacrifié autant d'individus.
Le peuple Chimú a ensuite été conquis par les Incas en 1470, lesquels ont poursuivi la pratique des sacrifices humains.
Allez, moins macabre, des archéologues mexicains ont découvert des centaines d'objets mayas dans des grottes du Yucatan. Ils parlent d'un trésor scientifique découvert, disent-ils, dans un espace mystique. Mais leurs recherches n'ont pas été si simples, car un serpent corail, l'un des plus dangereux du monde, a bloqué les recherches pendant 4 jours. Ensuite, les habitants de la région, toujours très superstitieux, ont organisé une cérémonie rituelle d'expiation pour ne pas fâcher les dieux et le gardien serpent. C'est ambiance Tintin, Temple du Soleil.
Merci Frédéric Mettezo.